premier temps d'une semaine consacrée à l'histoire du vin dans la fabrique de l'histoire, au lendemain de la vente des Hospices de Beaune et à 3 jours de la mise en vente du Beaujolais nouveau. Une émission bien entendu à consommer avec modération. Demain, nous nous rappellerons que dans les années 70, des régions protestaient contre leur marginalisation sur le territoire, interpellaient Paris et détruisaient même des barrières de péage et des perceptions. Ces régions étaient le Languedoc et le Roussillon à l'occasion de la révolte des vignerons du Midi. Ce sera le thème du documentaire. Mercredi, nous nous interrogerons entre anthropologie et histoire sur la volonté des vignerons de remettre en selle d'anciens cépages. Jeudi, nous débattrons de la naissance de la vigne. Où cette plante a-t-elle été domestiquée et comment s'est-elle propagée dans le bassin méditerranéen? Ce sont les questions que nous nous poserons. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous intéressons à ce qui fut à l'époque moderne un des principaux vignobles du royaume, le vignoble d'Île-de-France. Nous partons en balade dans la commune qui était au XVIIe, XVIIIe siècle aussi connue pour son vin que pour ses asperges argenteuil. Nous nous promènerons en compagnie d'Emmanuel Monteau, œnologue qui s'attache à faire renaître et à améliorer le vignoble d'Île-de-France aujourd'hui. Et d'Hervé Benzon, il est historien, il est maître de conférences à Paris 13, il a co-rédigé une histoire d'Argenteuil et il est spécialiste de l'approvisionnement de Paris à l'époque moderne. Nous allons donc discuter avec tous les deux de ce qu'était un grand phénomène justement de l'époque moderne, l'approvisionnement en vin de la capitale.
Alors là, on va pas avoir grand-chose, mais d'habitude, on est face à la Défense, ici. Vous voyez la Tour Eiffel.
Ouais.
On a vraiment une vue d'ensemble de Paris, quoi. La vallée. Vous êtes orienté sud-sud-est.
Ce sont des collines, ici, c'est quoi
C'est des mi-coteaux, on va dire. Hein, on est un petit peu en hauteur, mais on n'est pas non plus... on n'est pas dans la vallée d'Argenteuil ou Taverny, là, dans la cuvette. On est légèrement au-dessus, mais on reste sur des petits coteaux, quoi.
Alors nous voilà donc arrivés dans cette vigne d'Argenteuil. Alors évidemment, ça n'est pas le temps idéal en plein mois de novembre pour pouvoir être dans cet endroit-là. Il vaut mieux être au moment des vendanges en septembre. Vous avez vendangé à quelle période, Emmanuel Monteau, ici?
Alors nous avons vendangé plus tard que d'habitude. Mais je crois que c'est un contexte national. puisque cette année, le cycle végétatif de la vigne a repris assez tard, hein, compte tenu des conditions difficiles que nous avons eues en début du cycle. En tout début d'année, hein, quoi, du moins au moment où la pousse est sortie. Nous avons subi quand même du froid, du gel, la pluie régulièrement jusqu'au mois de juillet, donc une pousse difficile et pas très régulière au début. Mais ça s'est ressenti, je dirais, sur l'ensemble du territoire national. Et beaucoup de vignerons aujourd'hui s'inquiètent en effet également pour leur volume pour les années à venir, sachant que ça fait déjà 2 années de suite que...
La récolte n'est pas formidable.
La récolte n'est pas formidable. Elle est bien en qualité, hein, d'après, je dirais... tout ce que j'ai pu entendu dire dernièrement, mais les volumes ne sont pas là. Ouais. Même s'il y a une réflexion aujourd'hui sur les volumes, qu'on cherche à diminuer les volumes, on ne cherche pas forcément à les descendre autant.
Alors vous êtes œnologue ici à Argenteuil, en région parisienne, en banlieue parisienne, donc, et vous êtes héritier, pourrait-on dire, d'une longue tradition de vignobles dans cette région-là, puisque le vignoble d'Île-de-France était un vignoble très important, en particulier avant la Révolution française et surtout avant la fin du 19e siècle. Et là, nous sommes sur des coteaux, donc à mi-coteaux, avec, si le temps se lève un peu, on pourra peut-être voir... les tours qui sont au loin, et on est dans un véritable paysage rural, un bois derrière nous, un pré à côté, des arbres qui poussent un peu partout. Vous êtes œnologue ici à Argenteuil, mais vous êtes œnologue aussi dans beaucoup d'autres communes de la région, parce qu'il y a une sorte de ferveur autour de l'idée de replanter des vignes, c'est ça?
Voilà, alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, avec les vignerons Franciliens Réunis, hein, qui est une association qui est fédératrice un petit peu de tous ces vignobles, nous essayons en effet de faire renaître ces petits vignobles qui existaient autrefois. Et pour ça, donc, nous avons contacté en effet aussi bien des associations que des collectivités territoriales ou conseils généraux pour essayer de développer ce projet et faire renaître ce vignoble francilien qui existait en effet autrefois et qui était l'une des plus grandes régions viticoles de France.
Hervé Benzon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez travaillé en particulier avec d'autres historiens sur toute cette région parisienne, sur la façon dont cette région parisienne, à l'époque moderne, puisque vous êtes spécialiste de l'époque moderne, était fournisseur d'énormément de denrées pour la ville de Paris, qui était évidemment consommatrice d'énormément de denrées, et en particulier de vin. C'était quoi ce vignoble d'Île-de-France entre 1600 et 1800?
C'est un vignoble qui est absolument différent de celui d'aujourd'hui, évidemment, puisqu'on a, en 1700, une récolte qui a été estimée à 38 millions de litres de vin, donc quelque chose de très important, un vignoble qui est installé depuis des siècles déjà, hein, qui demande un savoir-faire ancestral, et dont les origines remontent à l'époque romaine, à la romanisation de la Gaule en particulier. Qu'est-ce que c'est vers 1600-1700? Eh bien donc des millions de litres, 38 000 hectares en Île-de-France, 28 000 hectares dans le nord-ouest de Paris, et singulièrement Argenteuil, la vallée de Montmorency, et puis d'autres lieux.
Alors en particulier à Argenteuil, parce que je crois que c'est une des communes qui est la plus grande à être en l'occurrence plantée de vignes, qu'est-ce qu'on y fournit comme vin, quel est le type de vin que l'on fait, mettons, entre justement la période de 1650, l'arrivée de Louis XIV au pouvoir, et puis jusqu'à la Révolution française, Hervé Benzon?
Alors dans un premier temps, nous avons un vin qui, au dire de la population et des amateurs, était un vin de qualité, qui était apprécié déjà à la cour de Philippe Auguste comme un vin fort dolent dans la bataille des vins, un poème de cour, qui était un vin donc qui était assez apprécié, mais dont le rendement était finalement relativement faible, avec 20 hectolitres à l'hectare, et c'est peu. Et la population va profiter de deux événements, a priori, peut-être même trois, hein, déjà la proximité de Paris et puis de toute cette population qu'il faut abreuver. D'une part. D'autre part, un événement, ce sont les guerres de Louis XIV avec la mobilisation massive des jeunes hommes célibataires qui partent à la milice ou dans les régiments du roi, et en particulier un certain Simon de Fresnes, que tout le monde a oublié ou presque, qui était d'Argenteuil, qui était vigneron et qui se retrouve projeté dans les troupes de Louis XIV en Bourgogne et qui va revenir avec des plans qu'on n'utilisait pas ici, notamment le gamay. Et en tout cas des plans qui, de l'avis général, donnent davantage de vin. Et le troisième événement, c'est le grand hiver de 1709, quand toute la vigne d'Île-de-France gèle et meurt, ou à peu près. Et donc on arrache les cèpes, on change la nature des cèpes, afin d'obtenir des récoltes qui donneront davantage. Donc là, on a 60 hectolitres de vin à l'hectare, c'est trois fois plus. Et puis aussi, avec cet événement, dans le même temps, qui est le passage de la population du royaume de 20 millions d'habitants à 28 millions entre le début et la fin du siècle, du 18e siècle. Et donc, tous ces jeunes qui arrivent à Paris, et cette ville qui gonfle de façon absolument fabuleuse, considérable, et tous ces jeunes qui vont fournir de la main-d'œuvre, mais aussi boire le vin.
Alors, justement, que sait-on de la consommation de vin de Paris, mettons, au début du XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution française? C'est une consommation particulière, parce que je crois qu'on consomme beaucoup de vin coupé d'eau, en l'occurrence, qu'on le coupe d'eau parce qu'on est censé, ce vin est supposé assainir l'eau, d'une eau qui n'est pas toujours très bonne en particulier. C'est comme ça qu'on le pense à l'époque. C'est quoi ce type de consommation? C'est une consommation qui est locale, qui passe les barrières de Paris, qui va jusque dans des cabarets à l'intérieur de Paris, là où il coûte beaucoup plus cher qu'aux portes de Paris. C'est quoi exactement?
Alors déjà, effectivement, l'eau parisienne, l'eau de la Seine, l'eau des puits, eh bien c'est une eau qui, comme partout ailleurs, n'est pas saine. Et donc la population, quand elle le peut, elle coupe cette eau, elle la coupe au vin. Donc dès l'enfance, on boit du vin et du breuvage rouge, comme on retrouve dans des documents, les inventaires après décès qui ont été laissés par les notaires du temps. Et ce breuvage rouge, eh bien, c'est en tout cas à Paris, est complètement généralisé. Après, on a quand même une boisson qui est chère. Et qui est chère parce qu'elle est taxée. Ce n'est pas que les vignerons dans l'ensemble soient si riches que ça, bien au contraire, on en reparlera sans doute, mais on a une boisson qui est taxée, passer les portes de Paris, elle coûte cher, et donc elle va permettre le développement de toute une série de cabarets ruraux qu'on appelle des guinguettes, qui sont aux portes de Paris. Il y en a 400 à la fin du règne de Louis XV, hein, dans les années 1770. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le vin vaut beaucoup moins cher dès qu'on passe Paris, et les Parisiens se ruent dans ces cabarets qui sont des lieux de sociabilité importants, et c'est là qu'ils refont le monde. On a aussi des tunnels qui sont creusés sous le mur des fermiers généraux à partir de 1787, parce que les Parisiens n'ont pas le droit, en tout cas les marchands parisiens, n'ont pas le droit d'acheter du vin qui a poussé, enfin dont le raisin a poussé à moins de 20 lieues de Paris. C'est la règle des 20 lieues, c'est-à-dire que depuis 1731, on doit se fournir en vin plus loin, ou alors on doit se fournir en vin, comment dirais-je, à l'ombre de Paris, mais sans que le vin pénètre à l'intérieur de la capitale. Bon, c'est une histoire de taxes, d'impôts. Et donc ça permet aussi, ça c'est l'avantage pour les populations rurales qui vivent autour de Paris, ça leur permet de s'épanouir, de vendre toujours davantage, bien que le pouvoir royal soit très inquiet, toujours de l'alimentation aussi en pain, parce qu'on ne fait pas que boire à l'époque, on mange aussi évidemment, et on a besoin du sol pour les céréales.
Bien sûr.
Et alors le pouvoir royal impose à plusieurs reprises, et c'est très net à partir de Louis XV, impose l'interdiction de planter davantage de vignes en Île-de-France. Ça va durer jusque sous Turgot en 1776, où là, il y a eu, finalement, on libéralise. Et à nouveau, les vignerons vont pouvoir planter.
Alors, qui sont ces vignerons d'Île-de-France à ce moment-là, au XVIIIe siècle, Hervé Benzon? Vous avez travaillé sur, avec en particulier Robert Muchimblé puis d'autres historiens, sur ce qu'on pourrait appeler le Grand Paris, mais le Grand Paris de l'époque, sur en particulier la façon dont Paris était prédateur pour son environnement, c'est-à-dire son environnement proche. C'est-à-dire que, évidemment, dans un premier temps, ces cultivateurs autour de Paris étaient des petits propriétaires qui se débrouillaient pour très bien vendre leurs marchandises à Paris. Puis un jour, ce sont les bourgeois parisiens qui sont venus racheter les terrains aux alentours pour pouvoir capitaliser, pourrait-on dire, sur cette fabrication, cette création de nouvelles nourritures. Qu'est-ce qu'il en est pour les vignerons et les vignerons d'Argenteuil où nous trouvons en particulier? Est-ce qu'ils sont propriétaires de leurs vignes ou est-ce que ce sont des bourgeois parisiens qui ont racheté les vignes et ils ne sont qu'à la tâche, pourrait-on dire, sur ces vignes-là?
D'abord, les vignerons sont très nombreux. Ils sont la majorité des paysans de la plupart des paroisses autour de Paris. Et qui sont-ils? Eh bien, on a un peu de tout. C'est une question qui est intéressante parce qu'on a une minorité de gros vignerons qui ont suffisamment d'arpents, quelques hectares seulement, hein, puisque la vigne a un rapport assez important, plus important que les céréales. Et donc, on a comme ça une minorité de gros vignerons dans chaque village. Ici, à Argenteuil, il y a 14 familles. 14 familles, eux, ils ont tout le matériel nécessaire, des charrues, des charrettes, les tonneaux, les gueulbés qui sont des tonneaux qui sont ouverts au-dessus, ils ont la gueule qui est béante, ils ont tout, et puis ils emploient des vignerons moyens. Alors ces gros vignerons, ils ont la terre, ils tiennent la terre en fermage auprès du seigneur local, c'est comme ça partout, mais ce sont eux qui sont en capacité de donner du travail à des vignerons plutôt moyens, qui eux ont moins de terre et surtout n'ont pas le matériel agricole nécessaire, parce que c'est un matériel très onéreux, hein, ce qu'on appelle le cheptel mort, donc tout ce qui est le gros matériel agricole, donc des gens déjà plus nombreux. Et puis si on descend les strates de la société vigneronne, on a la foule des vignerons qui sont... Et c'est difficile de les repérer, par exemple, dans les registres paroissiaux, parce que tout ce petit monde s'appelle vigneron. Ouais. Et vigneron, oui, bon.
Alors que c'est plus simple quand on a les laboureurs, par exemple.
Voilà, laboureurs et manouvriers.
Les manouvriers, par exemple, ça permet de savoir quelle est la condition sociale de l'un et de l'autre. Voilà, là, c'est pas possible.
Là, on comprend à peu près. Alors ouais. Que vigneron, bon, alors ensuite, évidemment, il faut aller chercher dans les minutes des notaires, relever les baux, rechercher la taille des exploitations, voir dans les inventaires après décès quel est le matériel. Mais enfin, globalement, on a la masse de ces vignerons, qui sont de tout petits vignerons et qui travaillent pour les autres, qui s'apparentent aux manouvriers du plat pays céréalier. Et ça, je m'en suis aperçu en faisant des recherches récemment sur Argenteuil. Et c'est intéressant parce que jusqu'alors, j'avais surtout travaillé sur le XVIIe siècle. Et là, voilà le XVIIIe siècle, avec cet essor démographique complètement inédit, et tous ces jeunes qui débarquent de Picardie, de Normandie, et qui sont des étrangers qu'on aperçoit relativement peu dans les registres paroissiaux. On retrouve ceux qui convolent avec une fille du coin, mais finalement, c'est pas tout le monde. En tout cas, on devine leur présence au moment où on arrache la vigne de Picardie, justement, parce qu'au XVIIIe siècle, les vignes de Picardie, on les arrache à la faveur du développement... des routes royales, bon, enfin, le vin voyage mieux, voyage plus vite, on n'a plus besoin de faire de vin en Picardie. Hein.
Alors, donc, on n'a plus besoin de faire de vin en Picardie, et qu'est-ce qu'on plante ici, par exemple, à cet espace, sur cet espace ici, où nous avons cette vigne qui a été replantée, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme cépage, selon vous, Hervé Benzon?
Alors, au XVIIe siècle, on a surtout du clairet, le clairet qui, je suppose, est un vin rouge clair. Je ne pense pas qu'on puisse parler de rosé. Donc on a du clairet, on a du blanc, mais dans un rapport de 1 à 12. C'est-à-dire beaucoup plus de clairet que de vin blanc. Ce sont des vins qui ne vieillissent pas, parce que dans les inventaires après décès, on s'aperçoit que quand ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, leur cote s'effondre.
Ouais.
Donc,
on ne peut pas faire vieillir ce vin-là.
Voilà, il y a des marchands de vinaigre aussi, donc on devine. Bon, et pour les cépages, on parle de pinot, de...
Pinot noir, en tous les cas.
De pinot noir, de mélier... Et à partir de 1709, enfin de la fin du XVIIe siècle, puis 1709, de Gamay. D'ailleurs, ici, on a un témoignage, c'est l'infâme Gamay.
Emmanuel Manteau, vous êtes l'homme de la situation pour nous expliquer ça. Si on s'avance par exemple ici, très jolie rangée de vignes, donc avec à chaque bout, comme on le sait, on a aussi un petit rosier, normal, c'est pour faire joli.
Maintenant, on va dire que c'est plus esthétique qu'un avertisseur de la maladie.
Et puis, c'est quoi par exemple ces feuilles? C'est quel cépage ça?
Alors là, ici maintenant, un chardonnay, sur Argenteuil, nous avons la vigne qui est un petit peu plus loin, qui est elle une conservation du patrimoine avec tous les cépages qu'il peut y avoir sur le territoire national, aussi bien du Gamay que du Cabernet Franc, que du Cabernet Sauvignon, que du Merlot.
Et tout ça, ça pousse ici, ça peut pousser ici.
On est dans le cadre de la conservation du patrimoine, avec quelques rangées un peu plus loin. Par contre, ici, on est sur des cépages de cuve, qui sont le Chardonnay et le Pinot Noir, qui sont des cépages septentrionaux, qu'on retrouve un petit peu partout sur la Bourgogne et l'Alsace également. Ce sont des cépages qui s'habituent très bien à notre climat ici en Île-de-France, même si nous avons fait des études autour de ce climat qui est propice en effet à l'implantation de vignobles et à la maturité des raisins, puisque nous sommes sensiblement sur les mêmes indices qu'à Colmar ou qu'à Colmar donc en Alsace, au niveau de la climatologie, du taux d'ensoleillement et de la pluviométrie. Donc nous avons suffisamment en tout cas de soleil et la pluie est un ennemi un petit peu à la vigne. Il n'en faut pas trop, il en faut un petit peu. Elle amène la maladie. Donc, sensiblement, en tout cas, la situation géographique et climatologique de l'Île-de-France est propice, en tout cas, à la vigne, en tout cas, ici. Et les cépages, donc bien sûr, Chardonnay et Pinot Noir, sont des cépages un peu plus précoces que le Cabernet Franc ou que le Cabernet Sauvignon, par exemple. Donc, adaptés ici, en tout cas, à notre culture.
On peut dire que ça n'est pas la renaissance d'un cépage. C'est parce que le Pinot Noir existait ici, ça c'est vrai, le Chardonnay sûrement pas, à l'époque dont on parlait à l'instant même avec Hervé Benzon. C'est la création d'un cépage moderne, pourrait-on dire, pour une vigne qui se veut une vigne moderne, en l'occurrence faite par un œnologue moderne, dont vous, Emmanuel Monteau.
On a étudié en effet le type de cépage approprié pour une implantation de vigne ici en Île-de-France. Alors on a essayé autre chose que les Cabernet, que les Chardonnay ou les Pinot Noir. Nous avons essayé également le Pinot Gris qui fonctionne très bien, le Gamay un peu moins, puisque nous avons fait d'autres essais sur le Gamay. Le Gamay, ça
donne une femme piquette justement ici.
Le terroir est pas trop. Nous sommes sur des terres limono-sablo-argileuses ici, où c'est assez épars là aussi, sur tout le territoire francilien, entre le sud, l'est, l'ouest et le nord parisien. Bon, on est sur soit du sable, sur l'argile. Par contre, le sous-sol est plutôt du gypse, et si on descend un peu plus profondément, donc on retrouve les marnes. Et là, en effet, on retrouve sensiblement le même terroir que la Champagne, en descendant un peu plus profondément sur les différents horizons, différents strates de sol inférieurs. Donc il fallait en tout cas étudier, suivant l'orientation qu'on avait en effet sur ce vignoble. Ici, nous sommes sur une orientation sud-est, donc une orientation tout à fait normale pour une vigne. C'est sûr que si on avait été exposé au plein nord, ça n'aurait été pas la même chose. Voilà. Donc, nous avons des maturités en tout cas exceptionnelles ici, puisque nous avons, on parle très peu d'alcool ici, puisque nous avons également des enfants. Nous avons de la pédagogie, nous parlons également de l'abus d'alcool, la modération autour de l'alcool. Nous avons des sujets quand même assez sensibles ici en Île-de-France sur lesquels nous discutons. Mais, en tout cas, le vignoble francilien n'a pas besoin d'être, la vigne francilienne n'a pas besoin d'être chaptalisée pour arriver à des degrés optimal.
L'histoire a conservé les noms de quelques-uns des vignobles les plus importants de la région parisienne.
Extrait de l'Heure de Culture Française, 14 décembre 1948, Georges Lyon évoque les vignobles de Paris et d'Île-de-France.
Si étonnant que cela puisse paraître, on peut citer d'abord le clos Saint-Symphorien, qui occupait un grand emplacement dans ce qui est maintenant le 13e arrondissement, au voisinage de la rue Nationale. Il y avait le clos Georgeot, qui avait donné son nom à une rue. Le clos du Hallier, où se trouve aujourd'hui la rue Bergère. Le clos Margot, à travers lequel on a percé la rue Saint-Claude, au Marais. Le clos Saint-Bruno, près de la rue des Carmes, au boulevard Saint-Germain. Le clos des Vignes, vaste vignoble qui englobait tout le territoire compris entre la rue des Saint-Pères et la rue Saint-Benoît. Le vin de Montmartre, célébré par le fameux dicton grivois que Sauval enregistre dans son Histoire de Paris. C'est le vin de Montmartre qui en bois peint en pisse 4. Le vin de Montmartre disparut bientôt. Après ce vignoble fameux, il nous faut citer dans l'île de France le vin de Suresnes que le roi Louis VII offrait en cadeau au roi d'Angleterre et que le Béarnais affectionna particulièrement. Il a été jadis très estimé. Il a été raillé ensuite. Aujourd'hui, il a presque complètement disparu. On a accusé les vignerons surénois d'avoir sacrifié la qualité à la quantité, puis d'avoir sacrifié cette quantité elle-même. Quoi qu'il en soit, le vin de Suresnes, le Suresnes première, comme dit le dicton, le peu qu'il en reste n'est plus qu'une piquette, mais c'est une piquette agréable aux gosiers assoiffés. Enfin, après le vin d'Argenteuil, qui ressemblait comme un frère au vin de Suresnes, nous citerons pour finir le vignoble de Thomery, qui est d'une classe infiniment supérieure. Malheureusement, on n'y fait pas de vin. Le raisin de Thomery, le chasselas de Fontainebleau, celui de la Treille du Roi, se consomme en grappe. La commune de Thomery, sur la rive gauche de la Seine, à la limite de la forêt, a su s'en faire une grande renommée. On y cultive le magnifique grappe sur des treilles en espalier le long des murs blanchis à la chaux. Malheureusement, la quantité du chasselas est petite alors que la demande est très grande, de sorte que le chasselas de Fontainebleau ne vient pas toujours de Thomery ni de Fontainebleau. On essaye de l'imiter, on le copie. C'est le plus bel éloge que, en terminant, nous puissions faire du meilleur raisin de l'île de France.
Hervé Benzon, si on revient à ce 17e, 18e siècle qui est votre cœur de cible d'historien, pourrait-on dire, puisque vous êtes spécialiste de cette période-là, on sait qu'un très grand historien, qui était Marcel Lachiver, a travaillé sur cette vigne, ses vignerons et ses vins produits en région parisienne, que ce soit au 17e, 18e ou 19e. Il nous a bien expliqué, dans ses ouvrages en particulier, qu'il y avait un moment, et ça correspond au moment dont vous parliez tout à l'heure, où les vignerons d'Île-de-France ont recherché un profit immédiat. Donc après ce grand gel de 1709, il a fallu replanter le temps que les vignes repoussent. On a attendu 1720, et là, 1720, c'est le grand moment justement de cet infâme Gamay qui va inonder les cabarets à la Courtille ou ailleurs, donc aux portes de Paris, jusqu'à Paris pour pouvoir justement répondre à cette demande immense de vin qui était la demande de la capitale croissante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Alors, non seulement on a davantage de vin, effectivement, à partir des années 1720, avec ce choix politique qui a été celui des vignons, d'alimenter davantage,
et donc de produire,
et produire toujours davantage, etc. Mais on a aussi, et ça c'est une originalité du temps, on a aussi au milieu des vignes qui n'étaient pas plantées comme aujourd'hui en ligne, mais plantées en foule, c'est-à-dire
un peu en pagaille.
En pagaille, on dirait. Et donc au milieu des cèpes, eh bien, il y avait toute une série de cultures qui poussaient parce que avec la population de Paris qui passe de 400 000 à 600 000 habitants en un siècle, avec un certain niveau de vie qui augmente, en tout cas pour une partie de la population, pas pour tous les Parisiens, eh bien, on a des figuiers qui poussent ici à Argenteuil, au milieu des vignes. On a toute une série de les fraises, des framboises, des groseilles de Hollande, à Montreuil, qui est une paroisse viticole depuis au moins le début du XIe siècle, certainement avant, mais on n'a pas de documents. Là, ce sont les pêchers qui, les murs à pêche, avec cette différence, parce qu'on parle évidemment beaucoup d'Argenteuil, nous y sommes, mais on a des vignes tout autour de Paris, et à l'est de Paris, on a des villages viticoles qui vont connaître une évolution tout à fait étonnante, puisqu'on arrache la vigne. Dans un premier temps, on essaye de faire cohabiter les pêchers et la vigne, et puis, pour une raison très simple, c'est qu'on paye l'impôt seulement sur ce qui est en bas, pas sur ce qui pousse en hauteur. Et le chapitre Notre-Dame de Paris intente des procès, en voulez-vous, en voilà, aux paysans qui essayent de faire cohabiter les deux, c'est-à-dire de vendre des pêches qui se vendent très cher sur les marchés parisiens sans payer d'impôts. Bon, finalement, ils arrachent la vigne et, parce que la pêche va rapporter là davantage. Bon, pour en venir à ce vin et à ces guinguettes qu'on trouve, oui, à la Courtille, du côté de Belleville, au Porcheron, enfin, tout autour de Paris, le choix des vignerons, il est évidemment de produire davantage et de répondre aussi aux attentes du pouvoir, parce qu'à Paris, on ne doit pas se révolter. Les autorités ont peur des Parisiens, il y a déjà eu des précédents, il y a déjà eu des barricades, et à Paris plus qu'ailleurs, on doit nourrir et donner à boire à la population.
Oui, c'est la fameuse thèse de Stephen Kaplan en particulier sur la guerre des farines et ce qui est considéré comme étant essentiel par le roi, à savoir l'alimentation en farine et en pain pour la capitale. Mais on a l'impression, en vous écoutant, que peut-être plus Hervé Benzon que pour d'autres populations agricoles, les vignerons ont la main, pourrait-on dire. C'est-à-dire que vous avez semblé dire que là, ils ne sont pas, ils sont un peu maîtres du marché, alors que dans d'autres domaines, eh bien, ils sont sous la coupe de ceux qui vendent, sous la coupe des marchands parisiens en particulier, ou des propriétaires parisiens. Est-ce que c'est véritablement ça ?
Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que ce sont souvent les mêmes familles. On a d'abord de gros vignerons. Certains se font appeler marchands de vin. Et de marchands de vin, on glisse vers bourgeois de Paris, marchands de vin, bourgeois de Paris. Il suffit de passer de l'autre côté de la muraille. Et effectivement, ils ont la main parce que, dans un sens, le vin, ce n'est pas anodin. Hein. Le vin, c'est aussi, ça fait partie de la liturgie. Il y a toute une histoire autour du vin. Et puis, surtout, c'est la boisson de base, de toute façon. Alors, on est à la fois du côté des vignerons chez les producteurs, du côté des bourgeois de Paris chez ceux qui tirent des profits. Bon, on parle des gros vignerons. Il faut imaginer un personnage comme Étienne Chevalier, qui est célèbre ici, appartenait à ces 14 familles de gros vignerons d'Argenteuil. Étienne Chevalier, né en 1750, qui se fait le porte-parole de la population au moment de la Révolution et va imposer la suppression des droits d'octroi sur les vins produits autour de Paris. Donc un personnage comme Chevalier, c'est à la base un vigneron.
Et donc pourtant, il gagne sur les deux tableaux, pourrait-on dire.
Absolument, absolument.
Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la Révolution française ? Parce que j'ai cru comprendre que la Révolution française, une partie de la Révolution française à Paris, commence justement par une révolte vigneronne, ou plutôt une révolte de personnes qui veulent boire le vin moins cher. C'est les débuts de la Révolution française, c'est le 11 juillet à la Courtille. Il y a une petite révolte qui va démarrer donc avant même la prise de la Bastille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que tous ces privilèges de l'Ancien Régime, toutes ces taxes, cette barrière des fermiers généraux contre laquelle on proteste parce qu'elle élargit encore la superficie de Paris et donc elle réduit la possibilité de boire en dehors de cette ville de Paris, ça a une teneur, ça a c'est une des raisons de cette révolte populaire qui va tourner à la Révolution et va protester de façon beaucoup plus large, Hervé Benzon.
C'est certainement une pièce du puzzle. Il faut voir qu'à partir des années 1750, ça va mieux en France. Le contexte économique est meilleur. On a eu les dernières grandes crises au début des années 1740. On a une génération qui arrive dans les années 1780, une génération jeune, d'hommes et de femmes jeunes, qui voient tout à coup leur niveau de vie s'effondrer par rapport à celui qu'avaient connu leurs parents. On est aussi à un moment probablement propice. Il y a eu le discours des philosophes des Lumières est passé par là, en tout cas dans les hautes strates de la population. Un homme comme Chevalier, il a lu Rousseau. Bon, Rousseau qui était dans le coin. Et donc on a effectivement probablement un ras-le-bol généralisé qui fait que tous ces jeunes qui ne trouvent pas leur place, parce qu'il y a toujours ce problème d'essor démographique et de manœuvre, qui fait qu'on ne trouve plus sa place. Vous savez qu'ici, en Île-de-France, on croit souvent que c'est la Révolution qui a apporté l'héritage égalitaire au moment d'une succession. Pas du tout. En Île-de-France, la succession est égalitaire entre les garçons et les filles. Et c'est dramatique pour beaucoup de paysans qui sont obligés de partager des parcelles de vignes minuscules. On a une micro-parcellisation qui fait que, pour la plupart, on ne vit plus. Et donc, on a des jeunes qui vivent probablement moins bien que la génération précédente, mais qui ont entendu parler de ce qui s'était passé avant et qui n'ont pas envie de revivre ces années de misère qui ont été déclinées par Marcel Lachivert, justement.
Dans son travail sur les vins, vignes et vignerons en Île-de-France entre le XVIIe et le XIXe siècle. Alors, le XIXe siècle, c'est un siècle important après la Révolution française, parce que ça va être le siècle de la déprise de ces vignes dans tout le territoire, puisqu'il va y avoir d'abord des maladies, de l'oïdium, du mildiou qui vont frapper ces vignes. Et puis ensuite, la croissance urbaine va faire que petit à petit, on va faire reculer ces territoires, et surtout l'invention du chemin de fer qui va faire venir des vins d'ailleurs. D'ailleurs, on vous l'a raconté cette histoire, j'imagine, Emmanuel Manteau, avant que vous vous lanciez dans ce travail d'œnologie pour les vignobles de l'Île-de-France.
Oui, oui, on m'avait raconté déjà un petit peu cette histoire, puis je m'étais renseigné un petit peu, parce que différents, en effet, livres et ouvrages avaient été édités sur les vignobles d'autrefois. Le déclin est venu vraiment à partir du phylloxéra, où là, vraiment, il y a eu un arrachage pratiquement total des vignobles et une replantation minime derrière. Et c'est pour ça que nous avons retrouvé dans nos archives ces quelques vignobles qui existaient encore aujourd'hui pour essayer de trouver quelques vieux cépages. Hein. Alors le Gamay en faisait partie, mais il y avait également l'Isabelle, le Baco, le Noah, qui étaient des cépages un petit peu aussi des hybrides moins sensibles.
Oui, mais le Noah étant interdit aujourd'hui, on ne peut plus le replanter.
Voilà, aujourd'hui. Mais autrefois...
Et le Baco non plus, je crois.
Le Baco est un cépage qu'on retrouve un petit peu en Charente, qui sert à la vinification et au cognac. Mais plus en tout cas sur les vignobles AOP d'aujourd'hui.
Donc on ne pouvait pas reprendre les vignobles anciens, et donc c'est pour ça qu'il a fallu redémarrer avec des vignobles nouveaux, en l'occurrence Emmanuel.
Voilà, il a fallu faire renaître, je dirais, tous ces vignobles, mais avec des porte-greffes adaptés, une étude de sol, voilà, donc les choses sont un peu plus poussées aujourd'hui, hein, aidées par la science aussi, et nous arrivons en effet à nous adapter aux soucis des maladies qui croissent aujourd'hui.
Alors, expliquez-nous, Hervé Benzon, puisque vous êtes auteur, co-auteur avec d'autres de ce très beau livre sur l'histoire d'Argenteuil, donc avec Sophie Marvaux et avec Martine Laguin, dans lequel vous expliquez la vie de ce village et de cette ville aujourd'hui, donc dans la longue durée, pourrait-on dire. C'est vraiment ça qui a fait périr les vignobles d'Île-de-France, l'arrivée de ces vins par le chemin de fer, vins du Midi, meilleurs, de meilleure qualité peut-être, et puis donc la concurrence, pourrait-on dire, qui arrive et qui fait que ce vignoble ne résiste plus à la concurrence.
La concurrence, elle a eu son rôle, c'est certain. Mais à mon sens, ce qui a été la fin du vin, c'est aussi l'urbanisation liée à l'industrialisation et une véritable fin de terre, non plus pour faire pousser des céréales
fin,
ou...
FIM,
la fin de la fin. Et oui, cette poussée de l'urbanisation qui a fait que les terrains, finalement, avaient... davantage de valeur quand on les construisait que quand on faisait pousser un vin qui s'avérait médiocre en plus. Il faut voir que la façon dont les vignes étaient engraissées, étaient fumées pendant l'hiver, fumées avec quoi ? Avec des bouses de vache, avec du crottin de cheval, mais 80% des vignerons n'avaient pas de vaches, n'avaient pas de chevaux. Alors c'était... surtout le purin, les excréments humains. Il y avait des fosses dans Argenteuil, dans Beson. On ouvrait les fosses, tout coulait à travers les rues du village, ce qui provoquait des épidémies. En 1783, l'intendant Berthier de Sauvigny a interdit qu'on fasse couler donc c'est ce purin à travers les rues des villages pour aller engraisser les vignes. Mais on continuait, puisqu'au XIXe siècle, on continuait toujours à Beson. Et... Et bon, on avait là un vin qui avait une réputation, on n'était plus avec le vin fort de l'an de Philippe Auguste, là, un vin qui avait une réputation épouvantable. Et finalement, oui, pour les agriculteurs du coin, pour les petits aussi, les petits vignons qui ont trouvé des emplois dans l'industrie, et donc il y a probablement eu aussi un manque de bras. Enfin bon. Pour toutes ces raisons, finalement, le vignoble francilien, il s'est rétréci comme peau de chagrin, comme s'était rétréci le vignoble Picard 100 ans avant.
Alors, il s'est rétréci, et donc il a fallu la volonté des personnes qui sont soit des municipalités, soit des associations, soit des propriétaires privés aussi, quelquefois, pour se dire, allez, on va s'y remettre, on va retenter le coup. Alors, on a longtemps cru, les vendanges de Montmartre ont été là pour le prouver, que c'était folklorique. Oui. On a vu un caviste comme Mélac faire venir chez lui, donc dans Paris, des vendangeurs et surtout des grappes qui avaient été récoltées sur un cep de vigne qu'on pouvait avoir sur son balcon, et le tout mélangé tout ensemble pour faire une sorte de vin de Paris. Tout cela, ça nous apparaît un peu folklorique, pourrait-on dire. Mais là, on a l'impression qu'on est face à quelque chose, une tentative qui n'est pas simplement folklorique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
C'est vrai que la démarche au début, hein, aussi bien à Paris avec le vignoble de Montmartre et puis les petits vignobles, ou du moins cèpes qu'on voit de temps en temps comme ça pousser au milieu de casernes de pompiers ou de quelques particuliers à Paris, servait plus, on va dire, en effet au folklore et à l'animation locale que, je dirais, à l'élaboration d'un vin de qualité. Aujourd'hui, notre réflexion est vraiment portée sur d'abord l'implantation de cépages appropriés pour arriver en effet à l'optimum sur une qualité d'un vin dégusté. Donc on recherche en effet aujourd'hui sur le territoire francilien à élaborer des vins sensiblement proches de ceux des AOP qui existent autour de nous. Sachant que l'Île-de-France, des appellations d'origine protégées. Voilà. Sachant qu'en effet, l'Île-de-France, la Picardie, la Bretagne n'ont pas d'AOP ou d'IGP, en tout cas d'indication aussi géographique protégée pour le vin. Donc nous essayons en effet aujourd'hui de faire renaître et d'intéresser aussi les collectivités et quelques particuliers et associations à ce projet.
Mais c'est une dimension, alors on peut se poser la question, humaine. Patrimoniale humaine, une expérience, sociale, une volonté sociale, parce qu'il y a tout ce mélange-là.
Pédagogique, expérimental en même temps, économique aussi pour certaines collectivités.
Hein, On a l'impression tout de même que c'est parti de ce qu'un historien qui s'appelait Eric Hobsbawm avait appelé la réinvention de tradition. C'est-à-dire qu'on a connu beaucoup de réinvention de tradition au milieu du 19e siècle, au moment où, après la Révolution française, Hervé Benzon, on a eu l'impression qu'il y avait une coupure avec la mort du roi, etc., qui était très importante avec le passé. On a réinventé des traditions, des coiffes, des habits traditionnels qui n'existaient pas auparavant, mais qu'on a un peu bricolés, qui sont devenus pour nous des habits traditionnels, puisqu'on n'a plus le souvenir de ce qui se passait auparavant. Et on a l'impression qu'on assiste à quelque chose d'assez similaire avec ce vin, Hervé Benzon.
Avec le retour du folklore. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je fais le lien avec le boom de la généalogie chez les Français. Beaucoup de Français se tournent vers leurs racines, prennent le chemin des archives départementales. Alors qu'ils sont urbains, bien sûr, parce que ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont quitté les campagnes. Et vous avez pratiquement 80% des départements français qui ont mis leurs archives en ligne. Et donc, on a d'un côté donc cet engouement pour le passé, mais pas pour n'importe quel passé, pour la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on vivait? Comment est-ce qu'on travaillait? Qu'est-ce qu'on faisait pousser? Et comment on s'habillait, justement? Parce que ce folklore du 19e siècle, avec cette réinvention du passé, oui, quand on travaille sur les inventaires après décès, donc qui sont des documents notariés, qui étaient rédigés lorsqu'une personne mourait en laissant des enfants en bas âge, le survivant allait se remarier, on ne restait pas veuf. Et donc, pour protéger les intérêts des enfants, il fallait noter à la fourchette près, à la petite cuillère près, à la fourchette aussi, parce que ouais, dans certaines familles de vignerons un peu huppées, on commence à utiliser la fourchette dès la fin du XVIIe siècle. On notait tout. Et notamment les vêtements qui sont décrits, ce qui nous permet, c'est le travail que j'ai fait dans l'histoire d'Argenteuil ou que j'avais fait sur Montreuil sous le règne de Louis XIV, on voit les couleurs des vêtements, alors souvent gris, noir, marron pour les hommes, mais de belles couleurs pour les femmes de vignerons d'Île-de-France qui portent des jupes rouges des tabliers rouges qui sont brodés. On a des personnages qui semblent avoir été assez coquets et finalement avoir tiré leur marron du feu à cette époque-là, parce qu'on a des femmes qui sont des femmes de vignerons, qui portent des costumes qui valent 14 livres. 14 livres, c'est deux semaines de paye d'un petit vigneron. Les hommes, c'est plutôt 9 livres chez les vignerons, donc les femmes investissent davantage dans leur apparence. Et donc, effectivement, on a une réinvention, mais une réinvention qui finalement n'est pas basée sur rien, puisque les archives montrent que, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les caractères de la Bruyère, tout le monde n'était pas vêtu de haillons, même si c'est vrai au moment des crises.
Surtout que les vignerons d'Île-de-France sont, et c'est ce que nous expliquait Marcel Lachiver dans sa grande thèse sur les vignerons d'Île-de-France il y a déjà une trentaine d'années, les vignerons d'Île-de-France sont plus ouverts, plus ouverts aux influences extérieures que les autres professions de paysannes de cette région, et qu'ils ont donc des influences diverses qui viennent auprès d'eux. Ils sont obligés de vendre leur vin quelquefois plus loin et donc de croiser des personnages qui viennent de plus loin que de la commune, des communes environnantes.
Et non seulement ils sont peut-être plus ouverts que d'autres paysans, mais ils savent s'en servir. Il suffit pour s'en convaincre de vérifier les noms des parrains et des marraines des enfants baptisés dans les registres paroissiaux. Dès qu'on a un peu de bien, dès qu'on a un peu de relation, même pas un peu de bien, mais un peu de relation à Paris, on se débrouille pour faire parrainer sa progéniture, soit par des bourgeois, des cousins enrichis depuis une génération, soit par des nobles. Et d'ailleurs, ça nous ramène aux femmes des vignerons, qui sont, en tout cas les jeunes femmes des vignerons, sont pour l'essentiel des nourrices, et les enfants qui sont mis en nourrice autour de Paris, ce sont des enfants de riches, parce que sinon, on peut les abandonner, c'est massif, ou alors on peut les donner en nourrice dans beaucoup des provinces beaucoup plus lointaines, où les enfants partent dès l'âge de 1 jour ou 2 jours, sont des nourrissons, ils sont chargés sur des charrettes, et il y a des gens dont c'est le métier, ils convoient les bébés, sur des chariots qui ne sont pas nécessairement bâchés, et puis c'est l'hécatombe qu'on retrouve dans les registres paroissiaux.
Alors évidemment, quand on a la possibilité d'avoir un peu plus d'argent, on peut les mettre plutôt en nourrice chez des vigneronnes d'Argenteuil, par exemple. C'est tout près de Paris, il y a moins de risques qu'ils meurent.
Absolument, moins de risques qu'ils meurent, ce n'est pas sûr, parce que j'ai remarqué à de nombreuses reprises qu'il y avait des familles, c'était des sortes de serial killers, des enfants mis en nourrice chez eux. Vous avez à Taverny une famille de vignerons, 14 morts, 14 bébés, ça ne rebute personne, on continue de leur donner des enfants. Pierre Chauffour, un vigneron de Montreuil, et sa femme, 9 morts, ce sont des noms qui me viennent sous Louis XIV. Ça ne dérange pas. On peut même se demander si ça n'arrange pas tout le monde. Évidemment, l'avortement est interdit, le recel de grossesse est puni de mort depuis Henri II, depuis le milieu du XVIe siècle. Une femme qui ne déclare pas sa grossesse, si elle accouche d'un enfant qui meurt, elle sera pendue. Et finalement, on va envoyer ses enfants en dehors de Paris. Alors oui, près de Paris, s'ils survivent au massacre des innocents, après tout c'est quand même 1 sur 2, ça fera un fils ou une fille qu'on aimera. Mais il faut avoir en tête le fait que les sensibilités étaient certainement très très différentes des nôtres, et que pour beaucoup, la perte d'un enfant, c'était le destin, c'était de toute façon 1 sur 2.
C'est ce qu'il vient de nous dire.
Alors, vous nous avez dit, Lionel Monteau, qu'en tant qu'œnologue, vous vouliez faire du vrai vin, et pas ce vin de démonstration qui permet aux enfants des écoles de fouler une fois par an les raisins, de faire en sorte qu'on fasse une petite fête autour de cela, de réinventer une fête de la Saint-Vincent quelquefois quand on en a besoin. Et puis, pas grand-chose d'autre au bout du compte. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire du vrai vin ici, dans cette région. Donc, il y a des véritables chais.
Oui, il y a des véritables chais. Mais c'est vrai que notre politique n'est pas forcément uniquement de faire du vrai vin ici. C'est-à-dire, nous repartons de l'histoire pour arriver, en effet, aussi bien sur la vigne et le vin, mais également sur les produits dérivés du vin, dérivés du raisin. Donc, ça peut être du vinaigre, ça peut être de la confiture. En tout cas, tout est démonstratif autour du végétal et en tout cas auprès des enfants à titre pédagogique. Puisque régulièrement, nous avons des scolaires qui viennent toute l'année sur le vignoble et qui suivent le cycle végétatif de la vigne, la fleur, le fruit, l'arrivée du fruit, l'arrivée des maturités.
Et qui des leçons de choses.
Voilà, et qui également pratiquent, je dirais, toutes les opérations avec moi à la vigne et aussi bien peut-être pas la taille selon l'âge de l'enfant, mais qui pratiquent les opérations en verre, les effeuillages, les éclaircissages, les épamprages, enfin bon, tout ce qu'un vigneron pratique dans sa vigne et fait tout au long de son quotidien, l'enfant peut également le pratiquer lors de ses séances. Et puis, il faut également amener à tout ça, je dirais, la qualité et la traçabilité, comme on demande partout un petit peu ailleurs. À savoir tout ce qui est intrants également de produits. Ici, nous sommes...
Intrants, donc ce sont les engrais.
Ce sont les engrais, les produits phytosanitaires. Et nous avons, en tout cas, nous, un cahier de vigne qui nous permet de retracer un petit peu tout ce que nous mettons, par exemple, à la vigne. Donc, et nous nous sommes orientés, en tout cas, par rapport aux volontés politiques également, qui sont sur, dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire dans le très peu de produits chimiques synthèse, en tout cas dans les villes, nous avons reproduit exactement la même chose ici, à la vigne. C'est-à-dire que nous n'avons pas la certification, puisque la certification est une demande du viticulteur ou du professionnel vers donc les administrations concernées, mais nous n'utilisons pas en tout cas de produits de chimie de synthèse industrielle, et notre volonté serait en effet plus proche de celle de l'agriculture biologique. Et puis, bien sûr, peut-être par... je dirais peut-être qu'il pourrait y avoir par exemple des écomusées qui se créent ou une histoire aussi au travers de la vigne avec des outils qui seraient bien en effet référencés, représentés dans la ville par je dirais, cette volonté politique voilà, de ne pas oublier je dirais, tout ce travail qui a
Mais
été fait autrefois.
Mais pas plus que cela, vous ne pensez pas qu'une activité économique nouvelle pourrait renaître de cela?
Si, puisqu'en effet nous travaillons également d'un point de vue professionnel, nous travaillons également avec des professionnels qui sont déjà dans l'agriculture et qui voudraient s'initier à la viticulture. Donc, eux, ils sont en effet sur différents types de produits, maraîchers ou céréaliers, mais plus, on va dire, fruitiers. En effet, nous ont contactés pour les amener doucement sur une plantation de vignobles, mais là, à titre professionnel. Donc, nous travaillons en ce moment, en effet, avec l'Europe, avec le gouvernement actuel, avec la ville de Paris, avec les instances politiques ici franciliennes, pour refaire renaître ce vignoble, aussi bien dans un cadre social, patrimonial, que dans un cadre professionnel.
Oui, alors les vignerons franciliens réunis, auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, Emmanuel Montaud, avaient rassemblé une sorte de colloque, je crois que c'était en 2000, dont le titre était « Quel avenir pour les vins franciliens ?»
Tout à fait.
La réponse, c'est qu'il y a un avenir.
L'avenir est en tout cas pas décidé aujourd'hui, puisque nous travaillons encore dessus, et ça fait bientôt 13 ans que nous travaillons dessus. La démarche est assez longue, on le sait, pour tout ce qui est administratif.
Et puis même pour faire pousser la vigne.
Et la vigne également, puisque nous n'arrivons pas en effet à du raisin avant 4 ans sur un vignoble. Mais la démarche administrative, en tout cas, est assez longue. Mais nous, peut-être, en effet, un jour, le territoire francilien et parisien, avec la dénomination Paris-Île-de-France, parce que là, on rentre dans peut-être une IGP, avec la formulation donc, de l'appellation Paris-Île-de-France, et pas uniquement Île-de-France, puisque Île-de-France est assez récente. Alors que, voilà, pour pas non plus qu'il y ait de confusion avec l'Île-de-France, qui pourrait être, pour certains, peut-être... on pourrait même aller au-delà de l'Île-de-France, dans les dom-toms. Voilà, donc on a rapproché Paris et l'Île-de-France pour créer ou demander cette IGP ici, en Île-de-France.
En tant qu'historien, Hervé Benzon, comment vous regardez cette tentative donc, de faire renaître le vignoble dans une région qui a été une grande région viticole, au-delà justement du simplement patrimonial et au-delà de l'anecdotique?
Moi, ça me fait rêver déjà dans un premier temps, parce que lorsque j'ai commencé mes recherches, c'était sur le territoire de Bagnolet, un lieu-dit, les Guilans, à la limite de Bagnolet et de Montreuil, donc des coteaux, avec une vue imprenable sur l'échangeur de la porte de Bagnolet. Et je découvrais un acte de 1610 déposé aux archives de Bobigny, dans lequel des paysans, des vignerons étaient en train de borner des terres qui appartenaient aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Vincennes, etc. Et évidemment, après avoir lu cet acte, je me rends au Guilan, je regarde.
Il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Alors bon, ça fait plaisir évidemment de voir une certaine renaissance du vignoble. Ensuite, comment je vois ça? Je voudrais mettre l'accent sur le fait que tout ne doit pas non plus être idéalisé. On a Argenteuil, à Montreuil comme ailleurs, comme tout autour de Paris, cette ceinture viticole. Et on a des rapports sociaux qui étaient extrêmement durs, avec, à partir du mois de juillet, du mois d'août, des terres qui sont interdites aux pauvres, totalement interdites, parce qu'il ne faut pas les grappiller, en septembre encore moins, et avec des femmes qui sont prises, à Argenteuil notamment, j'en ai trouvé dans les archives, qui sont fouettées, qui sont marquées au fer rouge du V de voleuse avant, sur l'épaule droite, avant d'être enfermées à la Salpêtrière. On a des délibérations qui regroupent les plus gros paysans dans chaque village, qui sont un peu en même temps des agents seigneuriaux, et qui décident de la date à laquelle on va commencer la vendange, et qui précisent bien qu'il est absolument interdit de pénétrer dans les sentiers, dans les vignes. On paye des gardes messiers qui sont souvent d'anciens militaires armés d'une hallebarde ou d'un fusil et qui patrouillent. Argenteuil, c'est particulièrement
surveillé
et incroyable, parce qu'Argenteuil, c'est le seul village du coin à être enfermé derrière une muraille pour protéger la Sainte Tunique, justement. Donc depuis 1544-1547, sous François Ier, on a érigé une muraille avec 16 portes et on ferme les portes de la ville quand le raisin arrive à maturation, avant les vendanges. Personne ne doit sortir. Bon, évidemment, je suppose qu'on pouvait sortir quand même pour aller se rendre... Mais enfin, c'était sous surveillance. Et donc, c'est particulièrement... Donc, je dirais qu'à la fois, ça fait très plaisir. Et à la fois, bien entendu, il ne faut pas idéaliser ce passé, à mon avis.
Merci à vous, Emmanuel Manteau. Merci, Hervé Benzon, de nous avoir conduits dans cette vigne d'Argenteuil. Malheureusement, nous n'aurons pas la vue sur la Défense. Malheureusement, nous ne verrons pas non plus la Tour Eiffel. Elle est cachée par le brouillard, par la bruine et par le crachin que nous avons sous les yeux. Mais il paraît, Emmanuel Manteau, que le crachin n'est pas si mauvais pour la vigne.
L'eau est bonne, hein, de toute manière, elle nourrit la vigne.
Mais il n'en faut pas trop.
Mais il n'en faut pas trop, voilà.
C'est sous le crachin parisien que nous terminons cette émission, donc une émission préparée comme d'habitude par Marie-Bonna Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée ici à Argenteuil par Benjamin Huot et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site www.franceculture.fr. Vous y trouverez également la référence des livres d'Hervé Benzon. Et vous pourrez écouter cette émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion, mais également laisser vos commentaires sur notre site ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.